السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Inch'Allah ta'ala,
Inch'Allah, à partir du vendredi prochain, va débuter la Jalsa Salana de la Jama'at du Royaume-Uni. La première chose que je veux évoquer à ce sujet est que vous devez prier pour que cette Jalsa soit un succès et soit bénie. Les membres de la Jama'at en général doivent prier en ce sens et les membres de la communauté ici au Royaume-Uni doivent en particulier prier en ce sens et faire aussi de l'aumône. Qu'Allah protège la Jama'at des méfaits et des ennemis de la communauté. Et qu'il fasse que cette Jalsa débute avec des bénédictions et se termine avec d'innombrables bénédictions. Au cours du sermon d'aujourd'hui, un sermon qui précède la Jalsa d'une semaine, je prodigue des conseils aux volontaires, hommes et femmes et enfants. J'évoque en général leurs devoirs et leurs responsabilités. Aujourd'hui, je vais parler à ce sujet. Et par la grâce d'Allah, maintenant, tous ces bénévoles qui travaillent pour la Jalsa, les hommes et les femmes, ont maintenant un très bon entraînement concernant la Jalsa. Tous les bénévoles ont une certaine connaissance de leur département. Ils ont un sens de responsabilité et il n'y a pas de doute que la majorité d'entre vous connaissent vos responsabilités et vos devoirs. Mais on peut tout le temps améliorer ce qu'on a fait, on peut affiner davantage ce sens de responsabilité, et pour cela, on doit faire des rappels. Cela est en accord aux injonctions du Saint-Coran qui déclarent que les rappels et les conseils donnent des avantages aux croyants. فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ le rappel est avantageux pour le croyant. Il y a ensuite des enfants qui vont participer dans ces travaux. On doit donc leur faire comprendre l'importance des services qu'ils vont rendre. Il y a aussi des jeunes qui vont participer pour la première fois dans ces tâches, des jeunes qui n'ont pas une compréhension parfaite de leurs devoirs. Ces responsabilités ne sont pas ordinaires. Les jeunes et les vieux se présentent pour servir les invités du Messie promis, alayhissalam, des invités qui viennent pour la Jalsa, des invités qui ont répondu à l'appel du Messie promis, alayhissalam, et qui sont venus pour apaiser leur faim spirituelle. Il y aura peut-être quelques personnes qui ne seront pas sérieuses et qui vont venir ici pour passer du temps. Mais cela ne signifie pas que l'on doit pour autant négliger ses responsabilités. Il y a différents types d'invités qui vont venir. Il y a tout d'abord ces invités qui habitent ici au Royaume-Uni et qui vont placer leur tente ici et là au cours de la Jalsa ou qui vont peut-être profiter des logements offerts par la communauté, et ces personnes seront en contact avec la majorité des départements au cours de la Jalsa. C'est pour cette raison que tous les volontaires de tous les départements doivent faire preuve d'une grande noblesse de caractère et de courtoisie. L'on ne doit pas les négliger parce qu'ils sont des habitants du Royaume-Uni. Si, par exemple, un volontaire ressent une certaine antipathie à l'égard d'un invité, cela ne veut pas dire qu'il doit le négliger. Si un volontaire agit ainsi, il sera coupable de malhonnêteté et de perfidie. Tout d'abord, vous devez oublier toute antipathie, toute animosité, et vous devez accorder prééminence à vos devoirs. Mais si un volontaire a de l'appréhension concernant un invité quelconque et s'il ressent qu'il ne pourra pas s'acquitter de ses devoirs envers lui, il pourra demander à celui qui travaille avec lui de s'occuper de cet invité. Ensuite, il y a d'autres invités qui vont et viennent quotidiennement et qui profitent de l'hospitalité de la Jalsa à une ou deux reprises. Ils en profitent à Hadikatul Mahdi ou à Islamabad. On va devoir donc s'occuper de ces invités et leur fournir leur repas. Au cours des années précédentes, il y a eu des doléances. Certains ont dit qu'ils n'ont pas reçu le repas, et d'autres ont dit que les volontaires n'ont pas bien agi envers eux. Mais après une petite enquête, on a compris que ce n'était pas la faute des volontaires, car le repas n'était pas disponible dans ces endroits. Mais en tout cas, s'il n'y a pas ces dispositions dans certains endroits, les volontaires doivent, avec grande courtoisie, expliquer cela aux invités. Ensuite, il y a les préposés de la sécurité et du parking. Toutes ces personnes doivent, elles aussi, faire preuve d'une grande courtoisie envers les invités. J'ai évoqué les doléances, mais ne croyez pas que c'est quelque chose de général. Il n'y a que quelques incidents de ce genre, mais cela peut affecter tout le système qui a été mis en place. Généralement, les volontaires font preuve d'une grande patience et endurent avec patience le mauvais traitement des autres. La troisième catégorie d'invités sont ceux qui viennent de l'Europe. Il y a certains qui logent dans les tentes collectives. Il y a d'autres qui ont pris leur disposition pour leur logement. Ces personnes sont extérieures du Royaume-Uni. C'est pour cette raison qu'elles ont de grands espoirs et de grandes attentes. C'est vrai que certains d'entre eux font des demandes excessives. Mais les volontaires doivent faire de leur mieux afin que personne n'ait pas l'occasion de les critiquer. Ensuite, il y a des invités qui viennent du Pakistan, de l'Inde ou de l'Afrique. Les invités qui viennent de l'Afrique et certains invités qui viennent des États-Unis sont sous la responsabilité du Tabshir. Mais ces personnes ont quand même des contacts avec les bénévoles des autres départements. C'est pour cette raison que l'on doit aussi respecter leurs demandes. Quant à ceux qui viennent du Pakistan, de l'Inde et du Bangladesh, ces personnes, en dépit de leur dénuement, viennent pour la Jalsa afin d'apaiser leur soif qui est la conséquence de leur éloignement physique avec le calife. Les Ahmadis au Pakistan font face à une grande injustice. L'on va devoir donc être courtois envers ces invités. Il y a certains qui ne maîtrisent pas la langue d'ici. C'est pour cette raison que si ces personnes ont besoin d'aide, les volontaires doivent se mettre à leur disposition. Si un bénévole qui a été contacté par un de ses invités n'est pas concerné par les demandes faites par cet invité, même dans cette situation, ce volontaire doit tout le temps être prêt à aider l'invité. Généralement, ceux qui viennent du Pakistan ont des parents qui habitent ici au Royaume-Uni, des parents qui viennent à leur aide. Ceux qui n'ont pas de proches qui habitent ici se font des soucis dans certains cas. Mais c'est vrai que depuis quelques années, on s'occupe très bien de ceux qui viennent pour la Jalsa et qui restent quelques jours ou quelques temps après la Jalsa. On a fait de très bons arrangements pour leur hébergement, mais comme je l'ai dit, on doit tout le temps faire des rappels. Et à ce sujet, je m'adresse à ceux dont les proches sont venus du Pakistan. Ce n'est pas uniquement l'organisation de la Jalsa qui doit s'occuper de ses invités. Cette tâche vous incombe à vous aussi, à savoir que vous devez vous acquitter de vos devoirs d'hôte envers vos invités. Ensuite, il y a ces invités non musulmans qui sont sous la responsabilité de la communauté. On fait des arrangements spéciaux pour l'hospitalité de ces invités. Mais généralement, ces personnes regardent de très près nos volontaires et nos bénévoles. Ils regardent leurs actions. Ils regardent de très près leurs qualités et leurs manières. Tous les ans, ces personnes sont impressionnées par les qualités de ces bénévoles. En Allemagne aussi, maintenant, il y a un grand nombre d'invités internationaux Et ces personnes sont influencées par les qualités de ces bénévoles. En tout cas, maintenant, c'est là la nature de tous ces bénévoles de la communauté, à savoir qu'ils font preuve d'une grande noblesse de caractère. Et même si vous n'avez pas un contact direct avec des invités, comme je l'ai dit, ces invités sont impressionnés par les qualités, les efforts fournis par les bénévoles. Ces bénévoles sont en train d'accomplir leurs devoirs d'une part, et d'autre part, ils sont en train de prêcher le message silencieusement, et ainsi ils sont récompensés doublement. Ils sont récompensés en servant les invités du Messie premier alayhi salam, et d'autre part, ils sont en train de présenter à ces invités l'image véritable de l'islam, et ainsi ces invités arrivent à reconnaître la vérité et embellissent ainsi leur vie ici-bas et dans l'au-delà. Les services rendus au cours de la Jalsa est un moyen d'avoir le plaisir de Dieu. Qu'Allah fasse que chacun puisse s'acquitter de ses devoirs de la meilleure façon possible. Cette année-ci, je veux attirer votre attention concernant la sécurité. L'année dernière, on a amélioré ce département, mais cette année-ci, on ne pourra pas tolérer la moindre lacune dans ce domaine et on va devoir regarder de très près toutes les mesures qu'on va prendre. La Jamaat a émis des cartes d'identité pour chaque individu et vous allez devoir prendre toutes ces mesures. Vous allez devoir vérifier l'identité de toutes ces personnes, même si vous les connaissez ou pas. S'il le faut, endurez pour quelque temps la colère d'une personne ou d'un invité et ne négligez point votre devoir. Je cite l'exemple de la Jamaat de l'Allemagne et l'organisation concernant la sécurité était très bonne. Il y avait plusieurs points d'entrée et il n'y a pas eu de difficulté. Lorsque les invités se faisaient scanner, leurs photos et leurs détails apparaissaient à l'écran. Ainsi donc, l'organisation de la Jalsa en Allemagne était très bonne. Les mesures qu'ils ont prises pour la sécurité étaient fort louables. Qu'Allah récompense tous ces jeunes qui ont travaillé dans ce domaine, qu'ils les éclairent davantage. Ce sont des personnes qui ont travaillé d'arrache-pied pour mettre en place tout ce système. Généralement, après la Jalsa de l'Allemagne, j'évoque les services rendus et les qualités de leurs services. Cette année-ci, je n'ai pas pu le faire. Et en passant aujourd'hui, j'en ai fait mention. En tout cas, au cours de la Jalsa, il y aura des vérifications au point d'entrée et le département de la sécurité ici au Royaume-Uni et dans d'autres endroits là où les gens vont loger, les préposés vont devoir être très vigilants. Et dans tous ces endroits, il ne doit pas y avoir que des jeunes. Des personnes d'un certain âge, leurs officiers ou les sous-officiers doivent être en leur compagnie. Mais comme je l'ai dit auparavant, nous plaçons notre confiance uniquement en Dieu. C'est pour cette raison qu'à aucun moment vous ne devez négliger la prière. Même lorsque vous êtes en train de travailler, vous allez devoir prier. Concernant la sécurité, sachez aussi qu'on va placer des chapiteaux ici et là pour les logements à Hadikatul Mahdi ou à Islamabad. Il y aura aussi d'autres bâtiments qui vont accueillir les invités, par exemple à Baitul Futu ou ailleurs. Il y aura des gens qui vont placer leur tente personnelle ici et là, à Hadikatul Mahdi et à Islamabad. Dans certains cas, il y a des vols. C'est pour cette raison que vous allez devoir prendre des mesures de sécurité. Si quelqu'un peut pénétrer quelque part pour commettre un vol, il pourra aussi commettre d'autres méfaits. C'est pour cette raison qu'en tant que responsable, vous ne devez pas uniquement vous contenter de dire que les invités doivent prendre leurs effets personnels avec eux et fermer les yeux. Vous allez devoir, au contraire, regardez de très près chaque situation, vous allez devoir vous acquitter de votre devoir de la meilleure façon possible. Et vous ne devez point être négligent. Cela ne concerne pas des vols, mais pour d'autres raisons aussi, vous allez devoir être très vigilant. Et ceux qui sont responsables de la sécurité doivent être pleins d'assurance et ne doivent point paniquer en aucune situation. Et il y a aussi les autres responsables. Par exemple, à l'heure de la prière, il peut y avoir un grand nombre d'invités et le repas peut arriver à manquer. Ce n'est pas quelque chose qui arrive tout le temps, mais puisque le repas est préparé ailleurs et que l'on doit transporter ce repas sur le site de la Jalsa, il peut y avoir des retards. Dans de telles situations, vous devez demander aux invités d'être patients. Il y a ensuite le département du transport. Il peut y avoir foule à l'heure des départs. Dans de telles situations, les responsables doivent maintenir leur calme et doivent encourager les invités à faire preuve de patience et de persévérance. Dites-leur que ce sont des difficultés temporaires et qu'on doit faire preuve de patience face à de telles situations. Encouragez-les et ne soyez point courroucés. Il y a ensuite d'autres départements. Il y a le département de l'eau. Il peut y avoir des manques dans de telles situations, car ces temps-ci, il fait très chaud. Il fait très chaud ici, c'est pour cette raison que ce département est très important. On a besoin de l'eau potable, on a aussi besoin de l'eau pour les toilettes. En dépit de l'expérience des bénévoles, dans certains cas, en raison de l'impatience des invités, dans certains cas, il peut y avoir du désordre. C'est pour cette raison que, d'une part, les bénévoles doivent maintenir leur calme et doivent aussi expliquer cela aux invités. Qu'Allah fasse que chacun d'entre vous puisse s'acquitter de ses devoirs de la meilleure façon possible. L'hospitalité est une qualité distinctive des croyants. Et lorsque vous accueillez des invités qui sont venus pour la cause de Dieu, des invités qui sont les invités du Messie premier, eh bien, sachez que ces invités apportent avec eux de grandes bénédictions. C'est pour cette raison que vous devez être vigilant à leur égard. Comme je l'ai dit, ces invités sont venus pour des causes spirituelles. Ils sont venus afin d'avoir une meilleure connaissance de la religion qui a été apportée par le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il puisse apporter en eux des changements purs, afin qu'il puisse aussi se rapprocher de Dieu. Comment le saint prophète, paix soit sur lui, accueillit-il de tels invités? Il y a d'innombrables exemples de ce genre. Par exemple, lorsqu'un invité est venu une fois, le saint prophète Mohammed lui a demandé à ses épouses de préparer quelque chose pour cet invité. Mais en réponse, ses épouses lui ont dit qu'il n'y a rien à préparer à la maison. Nous allons devoir nous contenter de l'eau. Grâce à cet incident, l'on comprend aussi la patience et la reconnaissance qu'avaient les épouses du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela est en raison du pouvoir sanctifiant qu'il avait sur eux. Et ses épouses ne se sont pas lamentées, n'ont pas dit que nous n'avons rien à manger nous-mêmes. On a su cela lorsque cet invité est venu. En tout cas, le saint prophète Mohammed, lui a confié cet invité à un de ses compagnons. Et ce compagnon n'était pas non plus une personne riche. À la maison, il avait uniquement de quoi nourrir ses enfants. Et il a fait coucher ses enfants et a présenté ce repas à cet invité. Il a éteint la lampe et a fait semblant, lui et son épouse, de manger, afin que l'invité ne ressent pas l'absence de ses hôtes. Et voyez un peu l'amour qu'éprouve Dieu pour ses serviteurs. Dieu en a informé le saint prophète Mohammed, son prophète béni. Il lui a dit que les actions de ces deux personnes m'ont fait sourire. Et lorsqu'une action d'un croyant plaît à Dieu, eh bien cette personne reçoit des bénédictions ici-bas et dans l'au-delà. Et ils ont reçu ces bénédictions en sacrifiant un repas qui était tout à fait insignifiant. Il y a un autre exemple de l'hospitalité du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'un juif est venu et lorsqu'il a sali la literie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le saint prophète, paix soit sur lui, lui-même est parti laver cette literie. Ses compagnons sont venus le voir et ont insisté pour qu'il lave cette literie eux-mêmes. Mais le saint prophète a répondu que cet invité était sous ma responsabilité. Dans un autre cas, Hadrat Abu Hurayra rapporte que le saint prophète nous a conseillé en ces termes, en disant qu'un croyant qui croit en Dieu et en l'au-delà possède trois qualités. Le croyant doit faire preuve de noblesse de caractère et doit tout le temps prononcer de bonnes paroles. Il ne doit jamais, par ses paroles, blesser les sentiments des autres, car ces mauvaises qualités vont nuire aussi à votre foi. Dans de telles situations, vous devez soit dire de bonnes choses ou soit être silencieux. D'une part, vous allez avoir le plaisir de Dieu. Vous allez aussi renforcer votre foi. Et d'autre part, vous allez garantir la paix de la société. Ensuite, ceux qui croient en Dieu et en l'au-delà doivent honorer leurs voisins. Allah a donné des directives très claires concernant nos devoirs envers nos voisins. Et le saint prophète Mohammed lui a déclaré que Dieu a mis tant d'importance sur nos devoirs envers nos voisins que je croyais que l'on va devoir aussi compter nos voisins parmi nos héritiers. Allah n'a pas donné des directives uniquement concernant les voisins permanents, ceux qui habitent à côté de chez nous, mais il a aussi donné des directives concernant ces voisins qui sont temporaires. Il y a ceux qui sont assis à côté de nous temporairement. Ces personnes aussi font partie de la catégorie des voisins et l'on doit s'acquitter de ses devoirs envers de tels voisins. Et ici, nous sommes en train de nous acquitter de nos devoirs envers nos frères dans la foi, envers ces personnes qui sont venues pour quelques jours et qui ont ces droits. Le troisième signe évoqué par le saint prophète est que le croyant honore son invité. L'hospitalité est importante afin qu'il puisse renforcer sa foi, afin qu'il puisse se rapprocher de Dieu. Comme je l'ai dit, l'action de ce couple de croyants a plu à Dieu. Dieu a mentionné sa joie en voyant ses actions et il a fait participer le saint prophète Mohammed paix soit sur lui dans sa joie. Ces personnes ont préféré sacrifier le repas de leurs enfants pour l'offrir à leur invité. L'époux n'a pas dit à son épouse de garder quelque chose pour ses enfants. Ils se sont mis en difficulté, eux et leurs enfants, afin de bien accueillir leur invité, et ainsi ils ont fait comprendre qui sont les véritables croyants. Voilà les croyants qui ont la certitude en Dieu et en l'au-delà. Ici, pour la Jalsa, on n'aura qu'à sacrifier un peu de temps et un peu de sentiments pour bien accueillir nos invités. Voilà le principe que nous a enseigné le Messie premier, l'Islam. Voilà ce qu'il a appris du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, à savoir qu'on doit accorder prééminence à l'amour pour Dieu. En suivant le saint prophète Mohammed, on doit accorder prééminence à Dieu. Et l'hospitalité du Messie premier alayhi salam n'était pas une hospitalité temporaire, c'était une hospitalité permanente. Et tout le temps, il s'est bien acquitté de ses devoirs. Et Allah lui a dit, « Wala tas'ir li khalqillah, wala tas'am minan nas », à savoir que tu ne dois pas être dur envers les invités qui vont venir te voir et tu ne dois pas te fatiguer de leur nombre. Allah lui a révélé ces paroles en dépit du fait qu'il était un très bon hôte. Et dès le début, Allah l'avait informé de la venue de grand nombre de personnes. Allah lui a informé à ce sujet dans d'innombrables révélations afin de lui faire comprendre que le nombre de personnes va grandir. Et après lui, le calife et les membres de la communauté vont devoir avoir en tête ce principe. Vont devoir avoir en tête cet enseignement et ne doivent pas négliger leur devoir d'hospitalité. C'est là une tâche importante qui nous incombe. C'est une qualité importante que nous allons devoir adopter afin de servir les invités. Comment le Messie premier al-Islam agissait-il envers ses invités? Nous allons voir cela à la lumière du témoignage de ses compagnons. Comment le Messie premier al-Islam s'occupait-il de ses invités? Nous allons voir cela à la lumière des impressions qu'a noté Cheikh Yaqub Ali Irfani dans son ouvrage. Il nous a fait comprendre que le Messie premier al-Islam était très content lorsqu'il recevait ses invités et il donnait des directives aux responsables de la cuisine de tout faire pour que leur séjour soit confortable. et de l'informer lorsqu'allaient venir d'autres invités, et de préparer des repas qui soient conformes aux repas qu'ils consomment dans leur région. Le but de ces soins était que si ces invités n'étaient pas en bonne santé ici, que vont-ils apprendre? Si un invité non ahmadi venait le rencontrer, il voulait que son séjour soit plus long afin qu'il puisse comprendre davantage à propos de l'islam et du message du Messie promis. Et il disait aussi que les invités ne doivent pas se donner de la peine. Et il disait que les invités doivent être sans cérémonie et dire ce dont il avait besoin. Et ainsi, il honorait ses invités. Ensuite, une autre de ses qualités était qu'il faisait tout sacrifice pour le confort de ses invités. Maulvi Abdul Karim déclare que quelques membres de sa famille étaient partis à Ludhiana et ils étaient au mois de juin. Et comme on le sait, il fait très chaud à l'époque. Il y a eu de la rénovation dans une partie de la maison. Et le Maulvi Abdul Karim déclare qu'il y avait un lit dans cette maison. Cette chambre était plus confortable car on venait de la rénover. On avait utilisé de l'eau, on avait utilisé de nouvelles briques. C'est pour cette raison que cette chambre était beaucoup plus fraîche. Ceux qui vivent ici dans le confort ne peuvent pas imaginer la situation de là-bas. Mais ceux qui ont vécu là-bas à l'époque savent très bien le confort que l'on ressent dans une chambre nouvellement bâtie. En tout cas, le Maulvi Abdul Karim déclare qu'il y avait un lit dans cette chambre. Je me suis allongé sur ce lit et le Messie premier l'Islam était en train de faire des va-t-et-vient. Maulvi Abdul Karim déclare que j'ai ouvert les yeux et j'ai constaté que le Messie premier l'Islam était allongé à même le sol. Maulvi Abdul Karim déclare qu'en voyant cette scène, j'étais tout gêné, j'ai sursauté. Le Messie premier l'Islam a demandé « Pourquoi avez-vous sursauté ?» J'ai répondu « Vous êtes là, assis, à même le sol, et moi je suis sur ce lit, c'est là une chose impossible. » Et le Messie premier l'Islam de répondre que j'étais en train de surveiller la situation autour de vous, et lorsque les enfants faisaient du bruit, je les en empêchais, afin que vous puissiez dormir. Voilà donc le sens de l'hospitalité du Messie premier l'Islam. Cet amour, on peut peut-être le voir en les parents, mais je pense que cet amour dépasse de loin l'amour que peut ressentir des parents à l'égard de leurs enfants. Seul un prophète de Dieu peut posséder des qualités pareilles. Nous avons ici la tâche de nous occuper de nos invités. Nous allons devoir adopter certaines de ces qualités. Nous allons devoir suivre ces exemples. Une autre qualité du Messie promis était qu'il honorait les invités selon leur statut et les invités en général recevaient le même traitement. Nous allons recevoir ici des invités non musulmans, des non-ahmadis, des représentants de certains états. Il y aura des représentants de certains peuples. Par exemple, il y aura certains chefs qui vont venir de l'Afrique. L'accueil réservé à ces invités est spécial et on n'a pas à émettre des critiques à ce sujet. Car le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que vous devez honorer les chefs selon leur statut. Mais l'on doit quand même faire preuve d'équilibre dans ce domaine. Mais les responsables de ses invités et de l'accueil de ses invités ne doivent pas fixer des catégories et ne doivent pas dépasser leur budget et doivent contrôler leurs dépenses. Dans certains de ces chapiteaux réservés, il n'y a personne et il n'y a que les bénévoles. Voilà ce qu'on m'a dit dans certains cas. On utilise dans certains cas à mauvais escient la catégorie de l'accueil réservé aux invités de morgue. Les responsables vont devoir prendre des mesures à ce sujet, mais en tout cas, on doit faire des arrangements spéciaux pour les invités de morgue, mais tout doit être organisé au même endroit et il faut qu'il y ait un certain équilibre dans ce domaine. Il y a trois buts dans l'hospitalité et l'accueil réservé aux invités. On va devoir s'acquitter de son devoir d'hôte en tant que croyant, mais à part cela, on a deux autres buts. On doit avoir en tête l'éducation morale de cet invité et le fait de lui prêcher le message. Au cours de la Jalsa, les responsables et ses départements doivent s'acquitter de leurs devoirs en ce sens. Et les bénévoles doivent présenter le programme de la Jalsa à ses invités de morgue et doivent leur faire comprendre de ne pas marcher à droite et à gauche et d'être présents pour les discours. Le département du Tablir doit être actif dans ce domaine. Et le Messie premier, l'Islam, ne faisait pas de distinction entre l'accueil qu'il réservait à ses adversaires et l'accueil réservé à ses suivants. Si un de ses adversaires venait comme invité, il demandait à ses suivants de bien s'occuper d'eux. Et il disait à ses préposés qu'il se peut que cette personne prononce des paroles malveillantes à votre égard. Dans de tels cas, vous allez devoir être calme. Il y avait un certain mollah qui était présent en tant qu'invité. Cet invité a logé dans la maison de Nawab Saheb afin qu'on prenne des mesures de précaution, mais afin que l'on puisse aussi bien s'occuper de cet invité. Ce mollah était venu pour une discussion et il avait dit à ses serviteurs de ne pas discuter avec lui, mais cet invité est parti sans discuter. Il y avait un autre mollah qui était venu aussi, un mollah qui maîtrisait très bien l'art de proférer des insultes. En tout cas, les mollahs maîtrisent bien cet art. Celui-là était un adversaire farouche des Wahhabis. En tout cas, le Messie premier l'Islam l'a accueilli. Quelqu'un a dit à ce mollah que la personne dont vous profitez de l'hospitalité, la personne devant laquelle vous êtes en train d'insulter les Wahhabis et Wahhabis elles-mêmes. Le Messie premier l'Islam a commenté à ce sujet en disant que ce mot-là proférait des insultes à tout bout de champ. Il a aussi dit que c'est vrai qu'on peut dire que je suis wahhabi parce que moi aussi, après le Saint-Coran, je fais des efforts pour suivre les hadiths qui sont authentiques. En tout cas, il y a beaucoup d'incidents de ce genre qui ont été consignés dans nos ouvrages, qu'Allah nous donne la possibilité de suivre cet exemple du Messie premier, al-Islam, un exemple qui est à l'image du modèle du saint prophète Mohammed Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, que nous puissions suivre son exemple et que nous puissions nous acquitter de nos devoirs envers nos invités. Mais je dois aussi ajouter que vous devez regarder ce qui se passe autour de vous. Car ces temps-ci, dans leur animosité à l'égard de la Jamaat, les ennemis de la communauté vont dépasser toutes les limites de la décence. Ce n'est pas uniquement une question de décence. On peut tout s'attendre de leur part. Qu'Allah fasse que nous puissions nous acquitter de nos responsabilités de la meilleure façon possible et qu'il nous protège de tout mal. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de Mukarrama Mubarika Begum Sahiba, qui est décédée le 14 juillet 2010 après une courte maladie. Elle était en Allemagne. Inna lillahi wa inna ilahi rajiun. C'était une dame qui était très pieuse et qui était très sainte, qui avait un très grand amour pour le califat. Au cours de sa courte maladie, avant son décès, elle demandait à propos de moi et elle ne s'était pas souciée à propos de sa maladie. Elle était toujours prête à aider les autres. Elle n'a jamais fait souffrir les autres. Elle avait un très grand sens de sacrifice. Si on lui demandait de prier pour quelque chose, elle priait tout le temps en ce sens. Et elle accomplissait tout acte de vertu. Elle se contentait de ce qu'elle possédait. Elle avait fait des bijoux qu'elle avait confiés à la Mariam Shalifand. Elle avait quelques économies avant son décès et a demandé qu'on confie cela au fonds Bilal Fund. Après le décès de ses deux belles-sœurs, elle s'est lui-même occupée des enfants de ses frères. Parmi les membres de la famille endeuillée, il a ses deux filles et ses quatre fils. Deux de ses fils sont des Waqfi Zindagi. Il y a le docteur Jalal Shams, le responsable du bureau turc. Il y a ensuite Munir Javed, qui est le secrétaire privé. Ces deux fils se sont donc dédiés pour la cause de Dieu. Une de ses filles s'est mariée à un autre Waqfi Zindagi qui est Nazir Islao Irshad. Ainsi donc, trois de ses enfants ont dédié leur vie pour la cause de Dieu. L'épouse d'un Waqfi Zindagi est elle-même une personne dédiée. Qu'Allah exalte le statut de la personne décédée, qu'Allah lui accorde son pardon. Après la prière de Juma, je vais diriger sa prière funéraire.